Ce matin, partager avec vous l'analyse d'un personnage. Son nom commence par la lettre B. Vous avez une idée, peut-être ? Ah ! J'ai entendu, là ! Mais c'est ça. C'est Barabbas, c'est ça que tu as dit ? Ah mais non, c'est pas Barabbas. C'est pas Barabbas. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Hein. Mais ça ressemble, hein, un peu. Mais oui, c'est Barnabas. Barnabas, un personnage biblique. Barnabas, en effet, donc c'est un Lévite, descendant du fils de Jacob, Lévi. C'était des auxiliaires, des sacrificateurs dans le temple. Et il est originaire de l'île de Chypre. Alors, son nom, c'est Joseph. Mais il avait tellement cette particularité en lui d'encourager, d'exhorter les personnes qui avaient autour de lui, que les apôtres lui ont donné un surnom, celui de fils d'exhortation, Barnabas, fils d'encouragement, fils de consolation, fils de réconfort. Tout cela dans le nom de Barnabas. Alors, son nom, il revient 27 fois dans le Nouveau Testament. Et s'il revient autant de fois, c'est qu'il a sans doute joué un rôle important dans la vie de l'Église primitive. C'est qu'il a eu un rôle majeur dans la naissance, dans l'Église naissante, ou dans les Églises naissantes. Alors, on va lire un texte. Acte 11, un texte qui nous servira de base, et nous allons lire à partir du verset 19. Jusqu'au verset 30. Donc, ça fait suite à la mort du premier martyr Étienne, qui a été lapidé, on s'en souvient. Et puis, ça fait suite aussi à cette vision de l'apôtre Pierre, hein, où il a vu une grande nappe avec des aliments impurs, et Dieu qui lui disait « tue et mange » à trois reprises. Hein, une vision qui ouvrait la porte de l'évangile aux gentils. Les gentils, c'est ce que la Bible appelle aussi les non-juifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture, un jeune par exemple? Est-ce qu'un jeune peut faire la lecture de Actes chapitre 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 30? Merci Maxime.
Par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et en Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur de Dieu. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le fruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent à Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tout à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. En toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. Elle arriva, en effet, sous clou. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.
Merci beaucoup, Maxime. Donc, la première caractéristique qui ressort du caractère de la vie de Barnabas, c'est qu'il est généreux. C'est quelqu'un de généreux. Il pratiquait ce qu'on appelait à ce moment-là le communisme chrétien. Selon Actes chapitre 2, versets 43 et 45, qui peut s'afficher s'il te plaît derrière moi, Valentin, Luc écrit. Actes chapitre 2, versets 43 à 45. Et donc, Luc écrit ceci. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétaires et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et acte, un peu plus loin, acte chapitre 4, verset 36, relate. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie, nous l'avons rappelé en introduction, fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc c'est le communisme chrétien. Une offrande louable de la part de Barnabas. Alors, on peut peut-être expliquer cette motivation, cet état d'esprit par le fait que les apôtres, les disciples, les chrétiens de l'Église primitive avaient dans l'idée que le retour de Jésus-Christ était imminent, qu'il allait vite se passer. Donc, ils se disent, mais ça ne sert plus à rien d'avoir quoi que ce soit autour de nous. Vivons dans un grand phalanstère ensemble et qu'il n'y ait pas de pauvres. Mais cependant, l'Église de Jésus-Christ a encore besoin aujourd'hui de la libéralité des chrétiens. L'œuvre de Dieu a encore besoin aujourd'hui du soutien matériel des chrétiens. Et Barnabas l'avait bien compris cela. Paul dira un petit peu plus loin en acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, pas les profiteurs, mais les vrais faibles, écrit Luc en relatant les propos de l'apôtre Paul, et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit « il y a plus de plaisir, de joie à donner qu'à recevoir ». Et c'est vrai que quand on voit le plaisir que ressent une personne à qui on offre quelque chose, ben ça nous réjouit nous-mêmes aussi. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'importance de la générosité des enfants de Dieu pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. En priorité, dira l'apôtre Paul un peu plus loin en Galates chapitre 6, verset 10, envers les frères dans la foi. Envers ceux de la maison de Dieu. Ce sont eux, les faibles, parmi nos frères, qui sont des prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier le reste du monde, mais la priorité va en faveur des frères en la foi. L'œuvre de Dieu, les missionnaires, les frères, les hommes de Dieu qui sont au service à plein temps pour le Seigneur, les distributions de littérature chrétienne, la distribution de littérature chrétienne, l'entretien des charges liées au bâtiment qui accueille les membres d'une église ont besoin de la générosité des chrétiens, ont besoin de la libéralité des chrétiens. Barnabas, c'est sa première caractéristique. C'était un homme généreux, un homme qui faisait preuve de libéralité, un homme qui donnait pour l'œuvre de Dieu. Deuxième caractéristique, au verset 26 et 27 du chapitre 11 que nous avons lu, on observe donc une deuxième qualité qui ressort du caractère de la vie de l'apôtre de Barnabas, c'est que c'est quelqu'un qui accueille, quelqu'un d'accueillant, comme Éric. Il est posté là dimanche après dimanche avec son beau grand sourire. N'est-ce pas? C'est ça, hein, Eric? Et puis, quand il y a quelqu'un qui rentre, ben, il lui donne un cantique. Je ne me trompe pas. Donc, quelqu'un d'accueillant. Et on voit l'accueil dont Barnabas a fait preuve quand Saul est revenu après sa conversion et après 3 années passées en Arabie. Il est revenu à Jérusalem en ayant comme objectif de rencontrer les apôtres. Mais tout le monde avait peur de lui. Les chrétiens de Jérusalem avaient peur de lui parce qu'ils se souvenaient que c'était quelqu'un qui persécutait l'église de Jésus-Christ. On avait peur de l'apôtre et on mettait en doute sa conversion réelle, sauf Barnabas, le fils d'exhortation. Il a écouté Saul, il a entendu son témoignage, il lui a fait bon accueil et puis il l'a introduit auprès des apôtres. Auprès des apôtres. Et alors, il y a une question qui se pose à nous ce matin, mais comment accueillons-nous ceux qui entrent peut-être ici pour la première fois? Bonjour aux visiteurs. Comment les accueillons-nous? Est-ce que on regarde leur accoutrement ou est-ce qu'on tient compte de leur vie passée, on stigmate leur histoire, on s'en méfie ou est-ce que nous les accueillons comme Jésus finalement les a accueillis chaleureusement, avec amour? Barnabas était un homme accueillant. La troisième caractéristique qu'on découvre chez Barnabas, en Actes 11, versets 19 à 24, c'est son ministère d'encouragement. Comme son nom l'indique, fils d'encouragement, fils d'exhortation. Après la persécution d'Étienne, comme nous l'avons rappelé en introduction, après la persécution d'Étienne, il y a beaucoup de chrétiens qui ont fui Jérusalem par crainte justement de la persécution et de l'hostilité des Juifs. Et ils se sont installés dans diverses villes de l'Empire romain. Et là, eh bien, ils ont annoncé l'Évangile, mais exclusivement aux Juifs, sauf quelques-uns. Quelques-uns qui, à Antioche en l'occurrence, ont annoncé l'Évangile aux Grecs. Alors les apôtres ayant appris qu'il y avait une église qui s'était formée, qui avait été fondée à Antioche, eh bien vont envoyer Barnabas pour se rendre compte de ce qui se passe, pour vérifier que tout allait bien, si tout allait bien. Et donc après un périple de, il y a environ 500 kilomètres de Jérusalem à Antioche à pied. Ça dure plusieurs semaines. Après un périple fatigant, une longue marche, Barnabas arrive enfin à Antioche. Et là, que découvre-t-il? Une église mixte, composée de juifs et de non-juifs, de juifs et de gentils. Des juifs, des païens qui n'ont pas été circoncis, qui se sont convertis, qui ont été baptisés, qui sont membres de l'église d'Antioche. Alors on peut s'attendre au moins à ce que Barnabas demande des explications quant à cette initiative qu'ont pris les chrétiens d'Antioche d'annoncer l'évangile à ces non-juifs. Pourtant, le verset 23 du chapitre 11, si c'est affiché là, nous dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous. Il les encourage tous. Barnabas, le fils d'exhortation. Il les encourage tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Plutôt que de les blâmer pour un motif quelconque, Barnabas les encourage. Rester fermement attaché à Jésus-Christ, au Seigneur. C'est devenu difficile aujourd'hui d'écouter, d'encourager, d'exhorter, On n'a plus le temps. On est dans un égocentrisme disproportionné. C'est l'égocentrisme de chacun qui prédomine. Il n'y a plus beaucoup de médecins qui sont là pour encourager les patients. Parfois, il y a des verdicts, des diagnostics lourds, conséquents, qui sont annoncés d'une façon glaciale. Monsieur, vous n'en avez plus que pour 3 mois à vivre. Il n'y a plus beaucoup d'encouragement. Même chose pour les professeurs, parfois. Myriam, elle encourage quand même ses élèves. Mais il n'y a plus beaucoup de professeurs qui encouragent les élèves qui sont plus faibles. Pourtant, l'encouragement, eh bien, elle est une vertu chrétienne. Et le Seigneur, eh bien, il nous encourage aussi à encourager les uns et les autres. Mercredi, ce mercredi de la semaine, je faisais mes courses dans un magasin. Et j'avais mon caddie rempli de packs d'eau. J'étais arrivé aux caisses, là, je faisais la file, et derrière moi, il y a un homme de 30 ans environ, 31, qui m'interpelle. Moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Donc, je me dis, ah, c'est mieux de boire de l'eau, qu'il me dit comme ça. Et alors, il ouvre son sac et il monte plein de bière dans son sac. Je lui dis, mais une bière, ça désaltère aussi, surtout quand il fait chaud. Oui, mais le problème, me dit-il, c'est que moi, j'en bois beaucoup trop. Et quand j'en bois beaucoup trop, je fais des bêtises. Alors, je me suis retourné et j'ai vu que sur son cou ici, il avait des tatouages. Et sur son cou, il y avait inscrit Jésus en grand. Mais j'en ai profité. J'ai dit, mais c'est Jésus qui est inscrit là sur votre gorge. Oui, oui, je suis fort croyant. Mais pourquoi est-ce que vous ne lui demandez pas de vous libérer de ça? Je dis, je ne sais pas s'il me pardonne. J'ai tellement fait de bêtises. Je sais. Et alors, je lui dis, mais vous savez pourquoi Jésus il est mort sur la croix? Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix, Jésus? Alors, il me dit, non, je ne sais pas. Et donc, j'en ai profité. Je lui ai rappelé, si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que Dieu a décidé de le châtier, de le punir, comme nous l'avons rappelé à travers ce culte ce matin, à votre place. Et si vous êtes sincère dans votre démarche de pardon, il vous pardonne aujourd'hui. Et vous commencez une nouvelle vie avec lui. Après, j'arrive au caisse, je suis là en train de payer, et la femme, la caissière, elle a tout entendu. En tout cas, elle a entendu une grande partie, et tant mieux. Tant mieux. Et elle me dit, monsieur, vous savez m'attendre encore un petit peu là à l'extérieur? Oui, oui, je vais vous attendre. C'est pour ça que je suis rentré un peu plus tard, là, après avoir fait les courses. Ingrid. Alors, j'ai continué à parler avec lui, à l'encourager. Je lui ai donné l'adresse de l'église, on ne sait jamais. Et puis après, je ne le connaissais pas, je lui tends la main pour le saluer. Lui, oh, je vous embrasse, dit-il comme ça. Donc, il m'a embrassé. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être encouragé. Et nous sommes là aussi comme des Barnabas. N'est-ce pas? Des hommes censés encourager ceux qui sont découragés, censés les exhorter, leur apporter du réconfort. Leur apporter du réconfort. Deux Corinthiens chapitre 1. Je ne sais plus quel chapitre. Tant pis. Paul dit ceci dans l'épître aux 2 Corinthiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques difficultés. Nous sommes appelés à consoler. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés autour de nous, et même dans l'Église. Nous sommes appelés à les encourager, à nous encourager mutuellement, à nous exhorter mutuellement. C'est une autre caractéristique de Barnabas, ce fils d'exhortation. Alors Barnabas était un homme de consolation, d'exhortation, d'encouragement, mais c'était aussi un homme, nous dit le verset 24 d'acte 11 que nous avons lu, c'était aussi un homme de bien, un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. Trois caractéristiques supplémentaires. Un homme de bien. Barnabas était un homme de qualité, fidèle dans ses engagements et fidèle aussi à Dieu. Il aimait ce que Dieu appelle bien et il haïssait ce que Dieu appelle mal. Barnabas, un homme de qualité. Barnabas, un homme de bien. Un homme fidèle. Barnabas était aussi un homme qui était rempli du Saint-Esprit. Connaissez le pasteur Charles Spurgeon? C'est un pasteur qui a exercé un ministère au 19e siècle. Et il dit ceci, de très pertinent. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers quand il n'y a pas de vent. On reste sur place. Le vent, c'est le souffle de l'esprit. Le compare au souffle de l'esprit. On est comme des voiliers quand il n'y a pas de vent. On est statique. Ou comme des carrosses sans chevaux. Un carrosse sans chevaux, qui n'est pas tiré par des chevaux, il n'avance pas. Nous sommes aussi secs que des branches sans sève. On ne produit pas de fruits. Et nous sommes comme des charbons sans feu. On ne produit pas de chaleur. Et on ne produit pas de lumière. Voilà ce que Spurgeon dit si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des voiliers quand il n'y a pas de vent ou comme des carrosses sans chevaux. Nous sommes aussi secs que des branches sans sève, aussi inutiles que des charbons sans feu. On pourrait dire aujourd'hui, nous sommes comme des véhicules sans moteur ou bien sans batterie. On n'avance pas. On est là. Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. On a reçu le Saint-Esprit, bien sûr, lors de notre conversion. Mais nous sommes invités à rechercher sa plénitude en nous. Et c'est dans la mesure où nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu que nous pouvons agir avec puissance. C'est dans la mesure où l'Esprit de Dieu nous a envahis que nous pouvons agir avec puissance. Et ça, ce n'est pas une expérience permanente, c'est une expérience ponctuelle. Et lorsque nous confessons nos fautes, parce que nous savons que le Saint-Esprit est attristé par le péché, il est éteint à cause du péché qui n'est pas confessé. Lorsque nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, lorsque nous rentrons dans la dimension de la louange, lorsque nous méditons de la parole de Dieu, alors nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira en Éphésiens chapitre 5, verset 18, c'est un impératif, il dit « soyez remplis du Saint-Esprit ». Et littéralement, c'est « soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Ça veut dire que c'est fragile. La plénitude du Saint-Esprit, elle n'est pas acquise de façon permanente, mais nous devons continuellement la rechercher. Et si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, alors nous agissons avec puissance. Parce que ce n'est pas nous qui agissons, c'est lui qui agit à travers nous. Barnabas était un homme de bien, un homme rempli de l'Esprit Saint. Et le verset ajoute aussi que c'était un homme de foi. Il était comme tous ces héros de la foi qui sont mentionnés dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Il s'attendait pleinement à Dieu. quelles que soient les circonstances. Il faisait pleinement confiance au Seigneur, même à travers les difficultés. Il se savait être entre les mains du Tout-Puissant. Il avait, comme le définit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au premier verset du chapitre 11, cette ferme assurance des choses qu'on espère et la conviction ou bien la garantie de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition de la foi. Eh bien, Barnabas, il avait cette assurance et cette garantie que donne, que procure la foi. Il avait cette foi, tout comme Paul, que l'œuvre de Dieu, même à travers les difficultés qu'il rencontrait, à travers les obstacles qu'il rencontrait, à travers les épreuves par lesquelles il passait, il avait cette foi que l'œuvre de Dieu allait porter du fruit. La foi est l'arme devant les défis et devant les difficultés par lesquelles nous passons. On essaie souvent de régler nos propres problèmes par nous-mêmes. Et parfois, on se trouve devant une montagne. On réalise qu'on est impuissant devant tel ou tel problème. Mais comment résoudre ça? Et on se tracasse. Bien sûr qu'il faut essayer de se débrouiller par soi. Mais parfois, il y a des choses qui nous dépassent. Et c'est à ce moment-là qu'il nous faut expérimenter la vie par la foi. Faire confiance simplement à celui qui nous tient entre ses mains. Et je pourrais vous raconter encore une histoire avec le voisinage auprès de chez moi. La langue, les cancans. On a été visé par des cancans. Et puis, on montait des voisins contre nous. Et puis, un voisin est venu et dit, « Monsieur, je tiens à rectifier, je n'ai pas dit ce qu'on vous a dit vous concernant. Je tiens à vivre en paix avec tout le voisinage. » Et donc, le problème a été résolu. Mais avant ça, je ne savais rien faire par rapport à ça. Je ne savais pas me défendre. Et en priant et en essayant de faire confiance à Dieu, il agit. C'est ça la foi, dans les petites comme dans les grandes choses. Tu l'as expérimenté aussi. C'est ça la foi. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Et on a si souvent du mal à expérimenter la vie par la foi. Une autre vertu qui caractérise Barnabas, vous savez c'est quoi? C'est l'humilité. Barnabas est quelqu'un de humble. Oh, il aurait pu chercher à avoir un nom. Il aurait pu chercher la renommée. Il aurait pu chercher la réputation en devenant peut-être le grand archevêque de l'église d'Antioche. Il aurait pu essayer de diriger l'organisation, le fonctionnement, la vie de l'église d'Antioche à lui tout seul. Mais Barnabas n'est pas comme ça, il n'est pas orgueilleux. Aussi va-t-il aller chercher l'aide de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est peut-être plus versé que lui dans les Écritures. Et c'est comme ça qu'il va chercher Saul de Tarse. Il nous est dit donc au verset 25 du chapitre 11 du livre des Actes, « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, ancien pharisien, qui a été élevé au pied du célèbre docteur de la loi, Gamaliel. » Et alors Paul va l'assister, et pour finalement prendre la direction des opérations. Et vous pouvez remarquer dans le livre des Actes, au début, c'est souvent Barnabas et Saul. Et puis Luc change, comment on dit ça, inverse. C'est parfois Paul et Barnabas, pour montrer que Paul va finalement prendre le dessus. Ça va accommoder Barnabas. Il va s'en accommoder. Il ne va pas faire preuve d'amertume, de frustration quelconque, mais il va accepter cette situation avec humilité. Barnabas, quelqu'un au profil humble. Nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une autre caractéristique de Barnabas, c'est que Barnabas, eh bien, il a un esprit de pardon. Quand on vient pour nous demander pardon, on a le choix. Je te pardonne. Bien, je ne te pardonne pas. Barnabas est quelqu'un qui a un esprit de pardon. En Actes chapitre 13, cette fois-ci, les trois premiers versets. Actes chapitre 13, versets 1 à 3. Après plusieurs mois passés à Antioche, Paul et Barnabas sont envoyés en mission. Ils sont envoyés en mission à Chypre et à l'intérieur de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et là, ils sont accompagnés d'un jeune homme qui s'appelle Jean-Marc. C'est Marc. Et il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent de la part de la main de Dieu. Ils fondent des églises. Tout va bien jusqu'au moment où ils arrivent dans la province de la Pamphylie. Je me demande si c'est pas là où tu vas aller en vacances, en face de Chypre, sur le continent. Et là commence la persécution. Et le jeune homme, Marc, peut-être, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il est traumatisé, parce qu'il appréhende, parce qu'il a été victime lui-même de persécution, rebrousse chemin et abandonne Paul et Barnabas pour rentrer à Jérusalem. Et après quelques mois, Paul et Barnabas retournent à Antioche. Ils racontent un petit peu leurs expériences, ce que Dieu a réalisé, ce que Dieu a accompli. Puis ils vont à Jérusalem, ils font la même chose, ils racontent leur expérience devant les apôtres. Et puis ils retournent à Antioche, de nouveau environ 500 kilomètres à pied. Ils en ont fait des kilomètres. Et là, Paul a le désir de retourner visiter les frères des églises qu'il a fondées en Asie mineure et en Chypre avant, à Chypre avant. Et seulement, Barnabas a le désir, souhaite, prendre avec lui de nouveau Marc. Et Paul s'y oppose. Il dit, mais non, écoute, on ne va pas le prendre. La dernière fois qu'on l'a pris, il nous a laissé, il nous a abandonné. Et c'est comme ça que plutôt que d'avoir un voyage missionnaire, il y en aura deux. Paul va prendre un autre compagnon en la personne de Silas et Barnabas lui va prendre Marc. Marc et Barnabas vont aller à Chypre et Paul et Silas vont aller sur le continent, en Asie mineure. Barnabas a pardonné l'écart, la faiblesse, peut-être la lâcheté même de Marc. Il a cet esprit de pardon. Il a cet esprit de pardon. Alors plus tard, on verra quand même que l'apôtre Paul, il a pardonné à Barnabas. On trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, verset 11, ce qui va s'afficher derrière moi. Paul écrit donc à Timothée et lui dit, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui est aigri envers Marc. Tout porte à croire que l'apôtre Paul a effectivement accordé son pardon au jeune Marc. Paul lui-même finira donc par pardonner à Marc et même à l'apprécier. Et Dieu a aussi par ailleurs, c'est ce que là beaucoup de personnes pensent, utilisé Marc pour la rédaction du deuxième évangile qui porte son nom, l'évangile de Marc. Le pardon est quelque chose d'essentiel dans la vie du chrétien. Si le christianisme est la religion de l'amour, le christianisme est aussi la religion du pardon. La religion du pardon. Vous savez, le non-pardon, il peut entraîner des dégâts sur notre âme et même sur notre corps. Le non-pardon, le refus de pardonner, l'amertume, elle peut provoquer des ulcérations, des ulcères, parce que ça nous ronge, la rancœur est là, la haine est là, l'esprit de vengeance est là. Et le non-pardon génère en nous des dégâts. C'est toxique. C'est la raison pour laquelle tant de fois le Nouveau Testament insiste sur l'importance du pardon. L'importance du pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 32 écrit « Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et on se souvient aussi de la question de l'apôtre Pierre à Jésus. Alors que sous la loi, on pouvait accorder 7 fois son pardon en un jour. Et Pierre, sachant ça, va poser la question à Jésus. Et Jésus va lui répondre, il faut pardonner 70 fois 7 fois. Par jour. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Pardonner à l'infini. Si une personne s'approche de nous dans un esprit de regret, de repentance, on doit lui accorder son pardon. Et si je comprends bien même les paroles de Jésus en Matthieu 6, verset 14, si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas non plus. C'est ce que je comprends. Je ne sais pas quelles sont les interprétations, mais Jésus dit ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste, il vous pardonnera aussi. Et si on ne leur pardonne pas leurs fautes alors, est-ce que Dieu va nous pardonner? Barnabas va accorder une deuxième chance à Marc. Comme il avait accordé une deuxième chance à Saul quand il est arrivé à Jérusalem. L'évangile est l'évangile de la deuxième chance. Dieu nous donne une deuxième chance, et même une troisième, et même une quatrième, et même davantage. Pourquoi ? Parce que c'est un Dieu d'amour et de grâce. Un Dieu qui pardonne. Voilà qui est notre Dieu. Et il nous demande aussi à notre tour d'accorder notre pardon. Barnabas, un homme qui a un esprit de pardon. Et puis, enfin, une dernière caractéristique, et certainement qu'il y en a d'autres, mais qui définit Barnabas, c'est qu'il est quelqu'un de confiance, d'intègre, d'honnête. On voit en Actes 11, versets 27 et 28, qu'un prophète du nom d'Agabus prévoit qu'il va y avoir une grande famine sous le règne de l'empereur Claude, qui est empereur romain à cette époque-là. Et sachant que les frères de Jérusalem sont pauvres, les chrétiens de la ville d'Antioche vont faire une collecte en leur faveur. Et ils vont remettre l'enveloppe de ce don matériel à qui ? À Paul et à Barnabas. Barnabas qui va lui-même en main propre remettre ce soutien matériel en faveur des frères de Jérusalem qui connaissent la disette, qui connaissent la faim et qui sont dans une situation précaire. Barnabas est quelqu'un de confiance. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'honnête. Et c'est aussi une caractéristique
quelque chose, des éléments qui devraient nous caractériser, nous aussi, en tant que chrétiens. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de confiance? Est-ce que nous sommes des personnes intègres? Est-ce que nous sommes des personnes honnêtes? Est-ce qu'on peut nous faire confiance? Pour conclure, à travers la vie de Barnabas, on découvre le portrait d'un chrétien qui est mature et qui présente au moins 7 vertus. Barnabas est un homme généreux, accueillant, encourageant. Il est un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et rempli de foi. Barnabas est un homme humble, ayant un esprit de pardon, et enfin quelqu'un qui est, comme nous venons de le rappeler, digne de confiance. Ça, c'était Barnabas. Alors, quelle leçon pour ma propre vie est-ce que je peux tirer de l'exemple de Barnabas, de la vie de Barnabas? Dieu, eh bien, Dieu souhaite que nous soyons, chaque chrétien, chacun d'entre nous, chacun parmi nous, des fils d'exhortation, des Barnabas. Alors que Dieu nous aide, par son esprit agissant en nous, à devenir, à l'image de ce Barnabas, un homme de bien, un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. Ah oui, c'est moi qui vais faire les annonces.